Mais j'écoute Radio Plus sur 104.3. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, une émission préparée par Michel et Marie-Jo.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer un archéologue et philosophe célèbre, c'est Louis de Backer. Alors, Louis de Backer, il est né le 16 avril 1814 à Saint-Omer. Son père, prénommé Louis également d'ailleurs, avait épousé Marie von Bavenkov, et de cette union est donc né Louis, dont nous allons parler tout au long de cette émission.
Ett litje dat ik hier nu voor u zing gaat over een fantastisch heel klein ding. Ik denk dat je het eigenlijk wel kent. Het is een heel eenvoudig instrument. Ik weet niet hoe ik het beschrijven moet, maar als je erop blaast, dan hoor je toet. En hoewel ik er maar weinig over weet, weet ik zeker dat zo'n ding een toeter heet. En nu komt het refrein. Het getoeter van daarnet was het refrein. Dus moet dit wel de tweede strofe zijn. Een echte titel heeft dit liedje niet. Dus doe ik het maar gauw. Ik toeter thuis en ook op school. Ik toeter nog wel uit en valt mijn toeter in het riool, dan wist ik hem eruit. Het klinkt een beetje onbeleefd, maar ik toeter waar ik wil. En als mijn moeder hoofdpijn heeft, dan toeter ik maar stil, ja, ja, ja. Beste mensen in het land, ik toeter voor, doe mij maar na. En heb je echt geen toeter bij de hand, zing dan gewoon van la la la. La 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 la.
À l'écoute de L'Heure Flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, donc, nous consacrons ce numéro à Louis de Backer. Donc, Louis de Backer, qui est né à Saint-Omer le 16 avril 1814, d'une famille plutôt aisée. Son père était imprimeur à Hasbrouck. Alors, on peut trouver d'ailleurs le nom de Backer avec deux orthographes différentes. Backer, B-A-C-Q-E-R, donc c'est la version française. Tandis qu'en flamand, eh bien, Backer, ça s'écrit B-A-C-Q-E-R. A-E-C-K-E-R. A-E étant donc en langue flamande, le A prolongé. A prolongé, bien sûr, qui est inconnu en langue française. Donc nous allons retenir, bien sûr, l'orthographe flamande de Baker, B-A-E-C-K-E-R. Alors Louis n'a que un an quand retentit la terrible défaite de Waterloo du 18 juin 1815. La famille de Baker est-elle bonapartiste? Nous l'ignorons totalement, mais elle aspirait, bien sûr, comme la grande majorité des Européens, à la paix. Alors avec le traité de Vienne, on aurait pu imaginer, d'ailleurs il en fut question un moment, le retour de la Flandre française vers les grands Pays-Bas. Il n'en fut rien puisque la frontière dessinée en 1713 n'a pas beaucoup bougé. Louis fait de très brillantes études. Il suit des études de droit qui lui permettent bien sûr d'exercer la profession d'avocat. Sa famille vit dans une belle demeure, on dit dans un château, mais bien sûr ce n'est pas un château fort tel type du Moyen-Âge, mais plutôt une de ces belles et grandes demeures typiques de la fin du XVIIIe siècle. Vivre dans un tel décor, bien sûr, va sans doute marquer profondément Louis de Baker pour, bien sûr, qui sont des motivations qui vont animer sa vie future. Il y a aussi, bien sûr, un intérêt évident pour le patrimoine architectural en particulier, mais aussi pour les mœurs de la région, de la littérature, des traditions au sens large. Tout en menant une brillante carrière professionnelle, en effet, il va passer donc magistrat, puis juge de paix, à Berg en particulier, et il sera muté par la suite à Dunkerque. Il s'intéresse à l'archéologie et à la philosophie, et d'ailleurs, très vite, il est reconnu pour la qualité de ses travaux, à tel point qu'il est nommé inspecteur des monuments historiques.
Vrienden, het is tijd om uw pakske te maken. Doet al uw pottekes en pannekes bijn. Tracht als ge kunt nog wat vreugde te smaken. Vreugd en verdriet springt het langst op de been. Want de aarde, die is al aan het verdoven. Het schijnt dat de zon en de maan ons verlaat. Niemand verplicht ik toch mij te geloven. Maar het is de roep dat de wereld vergaat. Sommigen zeggen het is triestig om te horen dat heel het mensdom zal worden verbrand. Anderen zeggen men zal ons versmoren, het een en het ander en is niet plezant. Was verduiveld, wat werd toch gedreven ons te behandelen als vis en gebraad. Het is om te schrikken, te schudden en te beven als je eraan denkt dat de wereld vergaat. Waarom nog goed ons te wassen en te scheren? Waarom nog goed een nieuw hemd aan te doen? Laat ons maar drinken en laat ons maar smeren. Laat ons maar gans ons fortuintje opdoen. Toe Jan, gij moet nog kieken zalen. Kiekes, die loopt toch nog op straat. Het is onnodig ervoor te betalen. Aangezien dat toch de wereld vergaat. Is er hier iemand die kleren wil kopen? Ik laat heel mijn boel aan de prijs van factuur. Ik ben van zin in mijn hemd rond te lopen. Het is nog te goed voor de warmte van het vuur. Ik ga mijn gereedschap verkopen, omdat er het werken tot niets meer een baat. Ik neem er geen stukjes niet meer van in handen, aangezien dat toch de wereld vergaat. Eindelijk moest er toch eens van komen. Het werd ons voorspeld door de ster met de steert. Ik heb gelukkig mijn voorzorg genomen. Mijn laatste cent is goddank reeds verteerd. Ben ik gedwongen de schulden te maken? Zet me mij morgen of heden op straat. Ik lach ermee, want het kan mij toch niet raken, aangezien dat toch de wereld vergaat. Ja, de wereld vergaat.
Vous venez d'entendre le groupe Laïs, un groupe de Flandre belge qui chante la plupart du temps a cappella. Vous interprétez de Verhul Ferhat, le monde s'en va, disparaît. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande.
Et justement, le monde disparaît, c'était bien le souci de Louis de Backer. Et donc, il est attaché, bien sûr, à l'architecture, à l'archéologie, et bien sûr, à la littérature et aussi à la langue. Il faut se rappeler que, Saint-Omer faisait partie par le passé d'un grand Pays-Bas, et dans les marais de Saint-Omer, le peuple, parle encore l'ancien flamand. Et d'ailleurs, ceux qui ont eu la chance de parcourir les marais audomarois ont pu constater que certaines cours d'eau portent encore des noms de langue flamande. Alors, vu la qualité des travaux de Louis de Backer, il va être nommé donc inspecteur des monuments historiques. Alors cette notion de monument historique, évidemment aujourd'hui, peut paraître assez banale, et puis ça a été rendu très populaire ces derniers temps, en particulier avec les actions de Stéphane Bern et la mise en place du fameux loto qui permet de récolter des fonds afin bien sûr de préserver les monuments remarquables. Mais cette notion de monument historique n'est pas si ancien que cela. En effet, nos anciens, eux, n'hésitaient pas, par le passé, à détruire une église, même centenaire, pour soit l'agrandir ou la raser pour en construire une ailleurs. De même, on rase facilement les remparts, bien sûr, pour des raisons militaires, pour affaiblir une ville concurrente, mais aussi on rasait des châteaux, on rasait des belles maisons sans qu'il y ait vraiment de soucis, de prise de conscience particulière. Il faut se replacer par contre dans ce contexte particulier, car en France, depuis 1790, et petit à petit d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe, on va vivre bien sûr au rythme des guerres, de cette révolution française, de cette révolution qui pendant des années sera particulièrement violente, va pousser les révolutionnaires en particulier à détruire tout monument pouvant rappeler l'ordre ancien. On transforme ainsi les couvents en de vastes hangars pour stocker à la fois du bétail, du foin, etc. On détruit les châteaux, les abbayes, pour récupérer les pierres, pour s'en servir à d'autres constructions, comme par exemple ici dans notre région, l'abbaye Saint-Minoc à Bergues, qui a été détruite et dont il ne reste plus que la tour carrée. Les bibliothèques sont ravagées, le mobilier totalement éparpillé. Alors évidemment, tout ça, ces excès ont fini par agacer un peu certaines personnes qui étaient attachées pas forcément au symbole de l'Ancien Régime, mais simplement à la beauté des cités. On peut ici, à la lecture d'un poème, certes pas tout à fait contemporain de Louis de Backer, mais on ressent bien l'esprit qui devait animer, bien sûr, l'ensemble de personnes comme Louis de Backer. Écoutons donc ce poème pour simplement se remettre un petit peu dans cette ambiance particulière.
Alors c'est un poète qui n'est pas très connu, né à Croix en 1900, appelé Marcel Lévy, Marcel Lovy, L-O-V-Y, intitulé « Regret ». Bientôt nous n'aurons plus chez nous de vieilles fermes, du doux pays flamand qu'elles ont enrichi. Notre époque insensible et rude les proscrit. Bientôt nous n'aurons plus chez nous de vieilles fermes. Sur leurs champs désertés, la ville s'agrandit, et les sombres rideaux des immenses fumées semblent les menacer des hautes cheminées. Sur leurs champs désertés, la ville s'agrandit. Elle régnait, jadis, au fond des solitudes, dans la campagne grasse où verdissait le blé, menant leur long labeur calme et jamais troublé. Elles régnaient jadis au fond des solitudes. Sous leurs grands peupliers, elles semblaient rêver, mirant leurs murs trapus dans l'eau de leurs fontaines, elles dormaient jadis heureuses et sereines. Sous leurs grands peupliers, elles semblaient rêver. Où sont leurs toits couverts de larges tuiles rouges, et leurs chaumes de seigle où la mousse s'étend? Et leur sol noueux sur le bord de l'étang. Où sont leurs toits couverts de larges tuiles rouges ? Ô, passé, cher passé, pourquoi nous quittez-vous ? Vieux château, ô moulin, douce chaumière close, nous souffrons lourdement du manque de vos choses. Ô, cher passé, pourquoi nous quittez-vous ? Bientôt, nous n'aurons plus chez nous de vieilles fermes, et nos vieux souvenirs nous quittent tristement. Qui donc reconnaîtra le doux pays flamand quand auront disparu moulins et vieilles fermes ? Donc un poème de Lovy, L-O-V-Y.
Voilà, donc c'est l'esprit qui anime bien sûr de nombreuses personnes, en particulier donc Louis de Backer, qui est très sensible bien sûr à ce patrimoine qui malheureusement a été détruit pendant ces années terribles de la Révolution française, mais aussi à cause des guerres napoléoniennes. Alors, ce n'est qu'en 1819 que pour la première fois est inscrit au budget de l'État une ligne pour préserver, sauvegarder les monuments remarquables. Il s'agissait donc de sauver de la destruction, de l'abandon de ces bâtisses témoins du passé du pays, de son identité. François Guizot, alors ministre du roi Louis-Philippe, lance en 1830 un vaste inventaire des monuments à classer et crée ainsi le poste d'inspecteur des monuments historiques. Et c'est ainsi que Louis de Backer va devenir donc inspecteur des monuments historiques.
Hij volgt nog altijd zijn dromen, tot van vandaag. Sommigen zijn uitgekomen, anderen bleven wat vaag. Hier in de schaduw van de maan, denkt hij daar altijd dikwijls aan. Denkt hij vaak aan zijn leven, dingen die hij heeft gedaan. Leven is nemen en geven, leven is komen en gaan. Hier in de schaduw van de maan, denkt hij daar altijd ik wel aan. Hij laat zijn geest de vrije loop en droomt van liefde en van hoop. En een traan, vrienden die weer verdwenen, gezichten die komen en gaan. Hier in de schaduw van de maan, denkt hij daar altijd dit wel aan. Letterlijk is niet te koop, hij leeft van liefde en van hoop. Geloven in een beter bestaan, maar geen dingen beloven zonder er zelf voor te gaan. Hier in de schaduw van de maan, hier in de schaduw van de maan, hier in de schaduw van de maan, hier in de schaduw van de maan.
Oui, Tura, vous interprétez une de Schrade van de Mann à l'ombre de la lune. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
104.3. Et vous pouvez bien sûr aussi écouter l'émission sur le site internet www.radioplus.fr. Et aujourd'hui, nous consacrons ce numéro donc à Louis de Backer. Louis de Backer, donc, qui vient d'être nommé inspecteur des monuments historiques. Il fait donc partie de ce nouveau corps de fonctionnaires et il connaît très bien sa région. Il est tout désigné, bien sûr, pour mener à bien cette mission qu'on lui a confiée. À noter que parmi ses inspecteurs et dirigeants de ce nouveau corps de fonctionnaires, il y a Prosper Mérimée, donc célèbre écrivain et historien de l'époque. Louis de Backer va d'ailleurs écrire plusieurs ouvrages consacrés au patrimoine, comme un livre consacré à la ville de Bourbourg, et aussi à Bergue, d'ailleurs à Bergue où il aura exercé le rôle de juge de paix. Il publie aussi un ouvrage consacré aux Flamands de France, étude de leur langue, leurs monuments et leur littérature, qui est publié en 1850. Ce livre va connaître un franc succès et va permettre, bien sûr, que Louis de Backer se fait un nom dans le monde, bien sûr, des écrivains, des philosophes, et qui va dépasser largement les frontières de notre région. Il est membre d'une association savante qui est fondée en 1853. Il s'agit du Comité flamand de France, association d'ailleurs qui existe toujours aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des associations flamandes les plus anciennes de la Flandre française. Ce Comité flamand de France a été fondé par le musicologue Edmond de Kussmacher. Son but était de, bien sûr, de récolter en particulier les vieilles chansons de Flandre française en particulier, et de, bien sûr, de les diffuser et de préserver ce patrimoine important. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de nombreux groupes folkloriques s'inspirent encore du recueil constitué donc par Edmond de Kussmacher, avec sous le titre « Les chants populaires de Flandre française ». Ce comité édite d'ailleurs régulièrement un bulletin qui est bien sûr réservé pour les adhérents, et il édite aussi un livre annuel qui est, disons, de très intéressant pour bien sûr tous ceux qui sont curieux de l'histoire et du patrimoine régional flamand. Le Comité flamand de France, d'ailleurs, possède une bibliothèque à Hasbrouck qui est consultable sur rendez-vous. Louis de Backer sera le premier vice-président de ce Comité flamand de France. Il est aussi, parce que c'est un monsieur donc très actif, il est aussi correspondant de la Société Dunkerquoise, une société créée pour l'encouragement des sciences, des lettres et des arts. Cette société dunkerquoise est un peu comme la fille des chambres de rhétorique qui existaient beaucoup en Flandre en particulier. Et elle organise d'ailleurs une fois par an des concours de poésie, de chant, de pièces de théâtre. Ces sociétés savantes travaillent souvent ensemble, d'ailleurs elles échangent des informations. Et d'ailleurs Louis de Backer était inscrit ainsi à plusieurs associations et il a porté son expérience à chacune d'elles, bien entendu. Louis de Backer va se marier le 18 mai 1836 à Bergue avec Colette Bayard. Il écrit de très nombreux ouvrages, pas moins de 48, et d'ailleurs nous allons vous en donner ici quelques titres parmi les ouvrages qu'il a écrits. Église du Moyen-Âge dans les villages flamands du nord de la France en 1848. Le livre dont on a parlé tout à l'heure, Les Flamands de France en 1850. De la religion du nord de la France avant le christianisme en 1854, un livre remarquable qui est encore très prisé par de nombreux historiens. Notre ouvrage, Analogie de la langue des Goths et des Francs, avec le sanskrit en 1858. Il a écrit aussi L'art dramatique chrétien dans le nord de la France en 1859. La Perse et la question de l'Orient en 1866, de l'origine du langage d'après la Genèse en 1869, un livre consacré à Vondel, qui est un des écrivains qui a, disons, codifié un peu la langue néerlandaise en 1872. La femme dans les poésies néerlandaises en 1872. Un livre consacré à Guillaume de Rubruck, ambassadeur de Saint-Louis en 1877. Le droit de la femme dans l'Antiquité en 1880. Et donc, à travers tous ces titres, vous pouvez remarquer que, Louis de Macaire est, bien sûr, curieux de tout. Il n'est pas cantonné uniquement à des choses bien passées, non. C'est un monsieur qui a une très grande culture et qui n'hésite pas à fouiller partout et à partager son savoir naturellement à travers ses ouvrages qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus réédités. Et donc pour trouver ces ouvrages, il faut passer soit par des sites de vente ou éventuellement bien sûr les brocantes et les salons des livres anciens.
Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. Armd met een kater voorop, daarachter twee konijnen met een treffer op de kop. En dan de grote smoes aan die leggen glazen ei. Wanneer je het schudt, dan sneeuwt het op de Egmondse abdij. Ik reik een meisje mijn koperen hand, dan komen er twee moren met hun slepen in de hand. Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar. Die trouwt met de vingerhoed, ze houden van elkaar. En onder de purperen hemel, in de bruine zon, speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoet de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt, die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt. We staken alle kerken met brandewijn in brand, het is koud vuur dus het geeft niet en het komt niet in de krant. Het leed is geleden, de horizon schijnt, wanneer de doden dronken zijn en bierlala verdwijnt. Dan steken we de loftrompet en ook de dikke traan en eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaasvaar. De gouden hemel, in de zilveren zon, speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de stoet vergoedt de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen. Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal.
Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc Louis de Macaire, célèbre archéologue, philosophe, et qui était inspecteur des monuments historiques, et donc qui, bien sûr, avait été attaché à la sauvegarde et à la transmission du patrimoine, en particulier donc flamand. Et parmi les 45 ouvrages donc qu'il a écrits, nous allons ici vous faire entendre une page d'histoire de l'ouvrage consacré à la ville de Berg, où il a été donc juge de paix.
Les environs de Berg étaient aussi abondants en gibier qu'ils l'étaient en céréales et en gras pâturage. Le droit d'y chasser fut réglé par une ordonnance royale, et le territoire de la Châtellenie fut à cet effet divisé en trois cantons. Le premier comprit les villages de Bierne, Krocht, Saux, Wamille et Warem, et fut réservé pour les plaisirs du roi. Le second comprit les villages de Broekerk, Spiker, Kapel, Amboskapel, Goedkerk, Tetegem, Lefrancouk, Gieveld et Uxem, et fut réservé pour les officiers de l'état-major et de la garnison de Berg. Les villages de Quadipre, Wilder, Wormhout, Westkapel, Rexpoed, Killem, Herzel, Bambeck et Oskapel formèrent le troisième canton, réservé à messieurs du magistrat. Pour maintenir et faire respecter les droits de chacun, les bourgmestres et échevins rendirent l'ordonnance suivante. Nous, etc., seigneurs et hauts justiciers des villages dépendants de la châtellenie de Berg, en conséquence de l'ordonnance de Sa Majesté, avons fait et faisons très expresse inhibition et défense à toute personne, soit de la ville, de la campagne ou autre, de chasser, sous quelque prétexte et en quelque manière, sur quelque gibier de poil ou de plume que ce puisse être, soit avec arme à feu, soit avec chien ou autrement dans les paroisses, villages et territoires y désignés, ni d'y avoir ou tenir chez eux aucun lévrier ou autre chien de chasse, à peine d'un mois de prison et de 60 florins d'amende pour chaque contravention, à chacun des 10 points, moitié applicable au profit du dénonciateur. Le magistrat interpréta le 6 septembre 1723 sa propre ordonnance en disant que chacun de ses membres pouvait amener à la chasse un ou deux amis, lesquels devaient être nobles, notables ou gradués dans une université, que le maître pouvait se faire accompagner d'un valet, que même le valet pouvait chasser seul, pourvu qu'il fût de la maison et non emprunté, le tout sous peine de perdre le privilège de chasser. Le pauvre peuple, comme on voit, était encore privé du noble plaisir de la chasse. C'est que, pour en jouir, il fallait être homme de robe ou d'épée, seigneur ou roi. À défaut de navigation maritime, la ville de Berg jeta ses vues sur la navigation intérieure. Elle avait, avec Saint-Omer, des relations commerciales très étendues. Il y allait de son intérêt d'avoir avec ses voisins de l'Artois une communication par eau sûre et facile. Un gadal, construit à Wattendam, embarrassait la navigation de la première à la seconde de ces villes. Comme il appartenait pour un tiers au chapitre des chanoines d'Air, le magistrat de Berg lui acheta cette portion et remplaça le gadal par un sas. Ce travail fut non seulement favorable à notre commerce, mais il assainit encore le climat en renouvelant chaque jour les eaux de la Colme.
Voilà donc un extrait du livre consacré à la ville de Berg. Une belle page d'histoire. Autre ville de la Flandre maritime auquel va consacrer un ouvrage Louis de Backer, c'est la ville de Bourbourg. Ici, nous partageons bien sûr un petit extrait de ce livre donc consacré à la ville de Bourbourg.
Frédéric Spinola vint d'Espagne dans les Pays-Bas avec 6 galères. La flotte des États généraux alla les attaquer dans les eaux de Gravelines. Elle tira sur elle avec tant de véhémence que 2 des galères furent transpercées et dématées sur place. Une, ne pouvant se dérober au feu des Hollandais, resta à Calais. 2 autres, fortement endommagées, se retirèrent à Newport. Enfin, celle qui portait Spinola en personne se réfugia péniblement dans le port de Dunkerque. Ce combat nautique est rappelé dans une chanson flamande de l'époque, je ne vous lirai ici que la traduction. 2 des navires furent saisis et coulés bas, le signor espagnol implora pitié, mais on n'écouta rien, le peuple fut impitoyable et ne laissa aucun de ceux qui priaient en tremblant, tous furent tués. Tandis que la marine hollandaise remportait cette victoire, Il y eut entre le président Richardot et un agent de Henri IV des pourparlers pour l'acquisition de la seigneurie de Bourbourg, mais ils n'eurent aucun résultat. Vers cette époque, vivait une femme dont l'âme avait des aspirations inconnues du monde. Originaire de Saint-Omer, elle fut d'abord l'épouse d'un homme qui tenait à des premiers rangs dans la bourgeoisie de Bourbourg. Il se nommait Mas, nom qui a été plus tard porté par un bourgmestre de la ville. Devenue veuve, Madame Mas donna en 1614 la maison qu'elle habitait à des religieuses de l'ordre de Saint-François. Ce fut là l'origine du couvent des sœurs pénitentes de Bourbourg.
Et d'ailleurs, ces sœurs, il y a que quelques années seulement qu'elles ont quitté la ville de Bourbourg, et donc Bourbourg, qui était donc une ville importante à l'époque et qui était un point stratégique, bien sûr, puisque, comme vous le venez de l'entendre, il y a eu des bagarres assez sévères à l'époque. Alors Louis de Baguer, bien sûr, s'intéresse à de très nombreuses choses. Il, comme on disait, il a publié de nombreux ouvrages. Et pour ce travail, eh bien, il va recevoir plusieurs décorations, comme par exemple la Légion d'honneur, dont il est fait chevalier, donc le 13 mai 1867. Il va être aussi décoré au titre de commandeur de l'ordre du Christ du Portugal. Donc c'est un monsieur qui est reconnu pour la qualité de son travail et qui, bien sûr, est très actif pour la préservation et la sauvegarde du patrimoine, tant architectural que littéraire en particulier. Et donc il va aussi, on a cité tout à l'heure, écrire un ouvrage particulièrement important, qui est encore utilisé par de nombreux historiens aujourd'hui, qui a été publié donc en 1862, c'est « De la religion du nord de la France avant le christianisme ». C'est un livre de référence et évidemment qui a bousculé d'ailleurs beaucoup de choses à l'époque, puisqu'il remettait un peu en cause certaines fêtes religieuses, comme ici récemment la Chandeleur, qui, bien sûr, longtemps, on a fait croire que c'était une fête purement chrétienne. Et bien sûr, avec les recherches qui ont été faites avec des gens comme Louis de Baguer, eh bien, on a remis un petit peu les choses en place. Écoutons ici un extrait de ce fameux livre.
Serait-ce là ces ignobles chants dont parle Thomas de Quatimprès et qui étaient populaires dans diverses provinces de la France et de l'Allemagne? Cantus turpissimus de Beato Martino plenus luxuriosus plosibus per diversas terras Galliae et Teutonicae promulgatus bonum universale de apibus. Dira-t-on que ces chants ne sont que de la parodie d'autres chants inspirés par la mission civilisatrice de Saint-Martin? Mais ils sont chantés là où le Saint-Missionnaire n'a jamais exercé son apostolat, là où il n'a jamais été. Et lors même qu'il en serait ainsi, pourquoi accompagner ces chants de sons de cornes, de coups de vessie appliqués sur le pavé, et surtout de feux allumés sur des collines ou de promenades nocturnes aux lueurs de lanternes? Ces usages singuliers ne peuvent avoir une origine chrétienne. C'est au paganisme qu'on doit en demander la raison. Or, le jour où l'on fête la Saint-Martin correspondait chez les païens au solstice d'hiver, et il fallait se rendre la divinité favorable pour passer cette période de l'année. De là, des réjouissances publiques, des processions, des cris de joie, du bruit, des repas. La lumière de l'hiver s'allumait alors pour la première fois. Les ouvriers commençaient à travailler au flambeau et les corporations se réunissaient autour d'un banquet où une oie entourée de lumière jouait le principal rôle. Aujourd'hui, L'ancien plat obligatoire est remplacé par les gâteaux du pays, les gaufres, auxquels fait allusion la chanson flamande.
Et donc, c'est un extrait donc, de ce livre de la religion du nord de la France, avant le christianisme, donc, qui est encore un livre aujourd'hui de référence pour de nombreux historiens, bien sûr curieux de connaître eh bien, les fêtes traditionnelles qui jalonnent dans notre calendrier, comme ici récemment donc, la Chandeleur.
Of ik ooit terugdenk aan die dagen dat wij in het café tot 's morgens vroeg we lachten en we zongen tot de ochtend en kregen van het feesten nooit genoeg. Oh, wat een mooie tijd, ik raak het nooit meer kwijt. Ja, dat gevoel, dat blijft je eeuwig bij. Al word ik oud en grijs, het levende bewijs. Jong van hart, dat blijf ik voor altijd. Laai, 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 laai. Van afscheid nemen. Je gaat je eigen weg en je vergeet die zogenaamde vrienden voor het leven. Zijn uit het oog verdwenen, maar je weet. Oh, wat een mooie tijd. Ik raak het nooit meer kwijt. Ja, dat gevoel, dat blijft je eeuwig bij. Al word ik oud en grijs, het levende bewijs. Jong van hart, dat blijf ik voor altijd. Laai, laai. Voorbij dat oud cafeetje, waar niets nog lijkt op hoe het vroeger was. Maar ik koester mijn herinneringen, in gedachten hef ik dan het glas. Oh, wat een mooie tijd. Ik raak het nooit meer kwijt. Ja, dat gevoel, dat blijft je eeuwig bij. Al word ik oud en grijs, het levende bewijs. Jong van hart, en dat blijf ik voor altijd.
Summers, vous interprétez What a Moyer Tate. C'est une chanson que vous devez certainement connaître en français. C'était Le Temps. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie Joux sur Radio Plus.
Alors évidemment, Louis de Backer, c'est un monsieur qui aime bien travailler avec les autres, échanger. D'ailleurs, ici, on va vous faire entendre un petit extrait qui montre eh bien justement cet amour du travail ensemble.
Cette question n'est pas neuve. Le Congrès scientifique de France, dans sa troisième session, tenue à Douai en 1835, avait émis le vœu suivant. Inviter toutes les sociétés archéologiques, et les archéologues en particulier, à s'occuper de la mythologie gauloise locale, afin de pouvoir arriver à la confection d'une mythologie générale des Gaules. Si nous nous trompons, ce vœu n'a pas encore été entendu, puisque le même congrès, qui s'est réuni à Arras le 23 août 1853, a désiré qu'on examinât jusqu'à quel point le polythéisme romain avait pénétré dans la Gaule belgique. Jusqu'à cette époque, continua la lutte entre le polythéisme et le christianisme. En Allemagne, en Hollande, l'étude de la mythologie est plus avancée. Jacob Grimm, Mohn, Adelung, Westendorp, Vandenberg, Budding et quelques autres écrivains ont fait pénétrer la lumière dans les arcanes de cette science si obscure.
Et donc, bien sûr, il travaillait en collaboration avec tous les grands philosophes et archéologues d'Europe, hein, puisqu'il travaillait en particulier avec les frères Grimm, célèbres pour leur conte. Louis de Backer, eh bien, va décédé à Paris le 4 février 1896, dont on fête aujourd'hui eh ben, les 124 ans de sa disparition. Il sera enterré à Norpen, où d'ailleurs son fils était maire à l'époque. Cette tombe d'ailleurs a fait l'objet d'une rénovation récemment, preuve que Louis de Backer suscite encore l'intérêt de nombreuses personnes et aussi bien sûr pour la qualité de son travail. Qui a permis bien sûr de sauvegarder eh ben toutes ces traditions de notre région flamande, aussi bien les textes littéraires que bien mettre en valeur nos monuments et aussi cette langue flamande auquel nous sommes attachés. L'émission touche à sa fin, eh bien nous allons vous souhaiter une excellente semaine sur les ondes de Radio Plus 104.3 et bien sûr sur le site internet de la radio www.radioplus.fr. Excellente semaine à notre écoute.
Dieu dit douter pas. Mag nog zo lang geleden zijn, een kwetsend woord, een groot verdriet, wat je diep draagt, vergeet je niet.
De eerste straf die je moeder gaf, om een vlek op je zondagspak.
Dit alles staat nog voor de geest.
Die trouwe hond, je deelgenoot. Hij werd te oud, men schoot hem dood.
Het is net alsof het pas gisteren is geweest. Wat je diep treft, doet eeuwig pijn. Het mag nog zo lang geleden zijn. Een kwetsend woord, een groot verdriet. Wat je diep treft. Grote liefde die niet kon zijn, je liet haar gaan, maar niet zonder pijn. Je zag haar nooit, of nooit meer weer.
Maar al
dan doet de wonde telkens weer een beetje pijn. Wat je diep treft, doet eeuwig pijn. Het mag nog zo lang geleden zijn. Een kwetsend woord.